France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, Alfred Schnittke a déclaré avoir composé une quarantaine d'œuvres. À son attention, sa discographie comporte quelques 800 titres. Son répertoire, 2500 œuvres, dont 101 créations. Il a connu Chostakovitch et tous les grands compositeurs russes du second XXe siècle. C'est dire si Gennady Rozhdestvensky a été une figure musicale importante. Importante, mais sans doute mal connue, même si le public français a pu souvent l'entendre avec l'Orchestre de Paris et l'Orchestre National de France. Ses débuts à 20 ans, Bolchoï, sa carrière phénoménale, ses amitiés musicales, ses relations avec le régime soviétique, Rozhdestvensky les a abordés lors de différents entretiens accordés à Bruno Mont-Saint-Jean, mon invité, qui vient de consigner ses propos dans un livre à la lecture stimulante, Les bémols de Staline, conversation avec Gennady Rozhdestvensky de Bruno Mont-Saint-Jean chez Fayard. Alfred Schnittke, c'était le début de la suite Gogol par l'Orchestre Symphonique du Ministère de la Culture du RSS, dirigé par Gennady Rozhdestvensky. Bonjour Bruno Mont-Saint-Jean.
Bonjour.
Donc vous avez rencontré, je l'ai dit en introduction plusieurs fois, ce chef Rozhdestvensky qui nous a quittés en 2018. Vous lui avez consacré plusieurs films, plusieurs documentaires et ses propos que vous avez réunis dans ce livre. Propos qui sont classés par différents thèmes, sa carrière, les compositeurs qu'il a pu connaître, le régime soviétique. Qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers ce musicien que vous considérez, vous l'écrivez, comme un des plus grands chefs du XXe siècle, Bruno Mont-Saint-Jean?
Oui, je ne l'ai pas rencontré plusieurs fois. Je l'ai rencontré tout le temps, depuis 40 ans,
d'accord,
en fait. Donc ça a été, ce bouquin est le résultat de, non seulement de tout ce que j'ai pu enregistrer avec lui, mais fait appel aussi à mes mémoires, fait appel à tous les propos qu'on a pu... On a parlé ensemble sans arrêt, n'est-ce pas? Aussi bien dans sa datcha que dans son appartement à Moscou, que dans sa maison à Stockholm, son appartement à Paris.
À Paris, oui.
Puisqu'en réalité, il habitait Paris. Qu'est-ce qui m'a attiré là-dedans? Je vais vous dire, en réalité, la première fois que j'ai eu dans l'avenir le plus proche l'occasion de l'approcher, c'était par l'intermédiaire de ma grande copine, Victoria Postnikova.
Donc son épouse.
Qui n'était pas son épouse.
Qui n'était pas encore son épouse, donc la pianiste.
La pianiste. Et je me souviens dans un taxi qui nous emmenait de Rome à Perugia, où elle donnait un récital, m'informer qu'elle allait épouser Gennady Rozhdestvensky. J'ai été complètement sidéré. Je connaissais bien entendu de nom et j'avais déjà pas mal de disques de lui. Il était déjà à l'époque, c'était aux alentours de 1970 ou 11. Ça. Il était déjà à l'époque une légende en Russie, en Russie soviétique.
En URSS, oui.
Surtout, j'ai trouvé qu'il y avait une différence d'âge qui me semblait monstrueuse. Elle était fabuleusement jolie. lui est quand même un des personnages les plus pas difformes, mais il a un visage tellement, on dirait presque une tronche, n'est-ce pas,
qui est, on peut dire ça,
qui est, oui, quelque chose d'absolument extraordinaire, qui est d'ailleurs très proche de la, de Prokofiev. Ça, il ressemble beaucoup, il aurait pu être son fils quasiment, et que cette jolie fille qui avait 11 ans de moins que lui aille l'épouser, ça m'a semblé très très étrange. Mais toujours est-il que on s'est rencontrés après à Moscou, et le personnage, je peux vous dire, est d'une telle un tel phénomène de drôlerie, de c'est plus que de la drôlerie, parce qu'il est, il est capable d'une extraordinaire profondeur. Mais on a eu vraiment une telle ouverture, et moi j'étais fasciné à l'époque par le par l'Union soviétique déjà, et il m'a tenu des propos sur la vie qu'il menait dans cette, dans ce pays, qui était d'une cruauté monstrueuse, même pour des gens comme ça, et surtout peut-être pour des gens comme ça, enfin surtout, non, ils étaient quand même privilégiés d'une certaine manière, mais Bernstein n'aurait certainement pas accepté de vivre dans les conditions où vivait Gennady Rzeszynski. Et donc ça, j'ai eu une relation extraordinaire profonde avec tous les deux, avec Victoria également, que je considère et que je continue à considérer comme une des plus grandes pianistes de notre époque. Et Gennady, lorsque je parle de un des plus grands chefs d'orchestre du XXe siècle, je parle bien du chef d'orchestre, c'est-à-dire de quelqu'un qui a un métier, qui est d'une... J'en vois deux. Il y a Carlos Kleiber d'un côté et Gennady Rzeszynski. Je trouve, au point de vue de la stricte métier du chef d'orchestre, cette prodigieuse imagination gestuelle qu'il avait, la connaissance approfondie des musiques, qui, ça semble contradictoire avec le fait qu'il avait ce répertoire d'une...
Phénoménal.
Mais c'est quelqu'un qui était dont le bonheur était de se trouver dans sa datcha à étudier ses partitions. Si on l'avait empêché de diriger, comme on l'a empêché d'ailleurs pendant quelque temps, c'était pas pour lui une punition extraordinaire. Il était, du moment qu'il avait de quoi se nourrir,
de quoi lire,
et lire et étudier, il était content. Voilà, donc c'était naturel que j'ai cette volonté de faire des choses cinématographiques avec lui.
Антонида, что случилось, кто тут был и где отец?
Отца враги забрали в лес.
Поляки, куда их путь пролег?
Куда пошли, не знаем мы.
Все пропало, все погибло, родимого не стало.
Как налетели, волки набежали, хищники напали, а война...
Yeah.
C'était enregistré en 1947, donc ce n'était pas Gennady Rozhdestvensky qui dirigeait, il avait alors seulement 16 ans, mais c'était Alexandre Melik Pachaïev à la tête des chœurs et de l'orchestre du théâtre Bolchoï. C'était un extrait d'une vie pour le tsar, également connu sous le nom d'Ivan Soussanin de Glinka. Tout ça, pourquoi? Ben, pour que vous nous expliquiez, Bruno Mont-Saint-Jean, le titre de votre livre, Les bémols de Staline, de quoi s'agit-il?
Oui, alors les bémols de Staline, c'est, d'abord, je l'ai choisi parce que il avait un contenu qui évoque d'une part la musique, par les bémols, et d'autre part l'histoire. Or, ce bouquin est effectivement, il y a beaucoup de choses qui concernent la musique,
mais
c'est surtout sur la vie en Union soviétique.
Bon. Tout à fait, ouais.
Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, qui va être impossible pour la version anglaise, parce que The Flats of Staline, ça veut dire les appartements de Staline.
Oui.
Donc, je vais choisir quelque chose d'autre. Alors, la raison, c'est qu'il y a une anecdote dans le bouquin que raconte Gennady Rozhdestvensky.
Qui veut dire de Noël, vous nous dites, c'est ça?
Ça veut dire monsieur de Noël, oui, exactement. Rozhdestvo, ça veut dire Noël. Rozhdestvensky, c'est l'adjectif qui va avec ça. Donc c'est un mot très très courant, enfin, c'est pas si courant que ça en russe, mais pour un russe, ça ne pose pas le début d'un problème à prononcer.
Alors ce qui n'est pas le cas pour nous.
Alors qu'ici, c'est d'ailleurs, il évoque les manières de prononcer son nom qui a été même jusqu'en France, jusqu'à, on l'appelait Rovensky, enfin, toutes les possibilités, on l'appelait même Roger de Vinci. Et donc, il raconte l'anecdote absolument stupéfiante. Je crois que ça concernait le chef d'orchestre, ça devait être comment s'appelait-il
est-ce que c'est pas Samosoun, non? Je sais plus.
Non, pense que c'était Gauck ou quelque chose comme ça. Un des grands chefs d'orchestre de l'époque. Staline l'a convoqué à l'entracte pour lui faire part de sa...
À l'entracte de cette opéra, justement, de Glinka.
Avec le Ivan Soussanin, voilà, puisque ça avait été... complètement remanié.
Parce que le tsar, évidemment...
Le tsar, ce n'était pas très bien.
Non.
Et Staline, donc, lui a fait part de sa satisfaction en disant qu'il avait trouvé ça épatant toute la première partie, mais qu'à son avis, il manquait des bémols. Le chef d'orchestre, vous savez, être convoqué par Staline en soi, c'était terrorisant.
Oui, évidemment.
Ouais, c'était terrorisant. Vous connaissez l'histoire avec Emil Gilels à Berlin, lors de la conférence de Potsdam. Staline l'avait amené dans ses bagages et à un moment, il lui a demandé de nuit de lui jouer du Chopin. Et puis il a pris ses mains, il a dit Zolotye ruky, c'est-à-dire main d'or. Et l'autre a été au bord de l'évanouissement, je dirais. Tous ces gens-là étaient terrorisés en étant convoqués par Staline. Et quand il a entendu que Staline trouvait qu'il manquait des bémols, il a dit, écoutez, je vous remercie infiniment, camarade Staline, de m'avoir fait la remarque, parce que je vais m'employer à changer ça d'ici la fin de l'entracte, mais il me faudra quelques minutes de plus. Et Staline lui a dit, mais pourquoi est-ce qu'il vous faut des minutes de plus? Parce qu'il faut mettre ça dans la partition et transmettre aux musiciens. Et donc ça devenait plausible, une explication plausible pour Staline. Voilà, et Staline, en disant ça, voulait montrer qu'il s'y connaissait également en musique. Voilà, donc ça fait partie des anecdotes absolument invraisemblables que raconte Gennady Rozhdestvensky, mais ça m'a donné le titre du bouquin.
Bien sûr. Alors justement, puisqu'on parle de ses rapports avec le milieu politique soviétique, il vous dit qu'évidemment, il avait pris ses distances, qu'il a pas pris sa carte du parti, mais quelqu'un exposé comme lui ne pouvait que vivre avec des compromis avec un pareil régime. On pouvait pas être totalement opposant et être à la tête du Bolchoï comme il l'a été.
Ça aurait été totalement exclu. Gennady était un dissident de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de mal avec ce régime. Le régime fournissait tout de même aux musiciens quelque chose qui était sans prix et qu'on connaît mal ici. Pourquoi est-ce que Richter, pourquoi est-ce que Gennady, pourquoi est-ce que Rostropovitch à l'époque, pourquoi est-ce qu'Oistrakh ne sont pas restés à l'Ouest? Il est clair qu'on leur donnait des possibilités de travailler avec une certaine autonomie. Pour Gennady, la grosse difficulté, parce qu'il fait partie des deux musiciens qui ont absolument refusé l'appartenance au parti. Ce qui en soi était un signe de dissidence terrible.
Alors, le deuxième,
comme,
qui est-ce
comment
le deuxième, vous dites, les deux musiciens.
Richter.
Oh, oui, Richter.
Richter. Et Oistrakh était membre du parti. Il est rentré dans le parti en 1941. Et ça devait être absolument torturant pour ces gens-là. Parce qu'ils savaient à quoi ils avaient affaire. Et lui s'est débrouillé du fait qu'il était le patron de deux institutions. Il avait la direction du Bolchoï, et il avait la direction de l'orchestre de la radio. Donc à chaque fois qu'on venait le voir pour lui dire que c'était obligatoire, il n'était pas question de... Ayant des postes aussi en vue que ça, il n'était pas question de... Et on ne peut pas refuser. Refuser, c'est hors de question. C'est-à-dire, on vous met en prison tout de suite. En prison ou au goulag. Oui. Donc il dit, non, mais moi, je vais faire ça, mais je ferai ça plutôt à la radio. Quand on venait de l'interroger au Bolchoï, et quand on venait de l'interroger à la radio, il disait, je ferai plutôt ça à Bolchoï. Et pour les fonctionnaires qui venaient et qui insistait pour qu'il rejoigne le Parti communiste, l'important pour eux, c'était de pouvoir signer un rapport dans lequel ils disaient qu'ils avaient fait leur boulot. Donc, tout ça, ça se perdait dans ces arcanes bureaucratiques, et il a pu réussir comme ça. De la même manière que lui avait, enfin, ça, je pourrais vous raconter les retours de l'étranger de Gennady, c'était quelque chose d'absolument étonnant aussi.
Thank you.
Itzhak Perlman au violon, l'orchestre symphonique de la BBC, dirigé par Gennady Rozhdestvensky. C'était le Scherzo Vivacissimo du premier concerto pour violon de Prokofiev. Bruno Bonsaint-Jean, orchestre symphonique de la BBC, ça me fait penser donc aux tournées et à ces musiciens soviétiques qui quittaient leur pays. C'est évoqué dans votre livre, Les bémols de Staline. Et on sait que les musiciens étaient surveillés par des, entre guillemets, accompagnateurs.
Ils étaient tous surveillés par des accompagnateurs. C'était difficile de se rendre compte parce que j'ai rencontré pas mal de fois David Oistrakh. Mm-hmm. Et il y a eu une seule exception, c'était au festival de Prades, où Oistrakh a pu louer sa petite bagnole. Et on est parti sur le Canigou, dans les montagnes, ce qui fait que j'ai pu le voir de près. Et là, il semblait être... Il allait voir Casals, c'était un festival de musique de chambre, ça aurait été très compliqué pour eux d'envoyer quelqu'un. Mais autrement, il était toujours accompagné. Et tout le monde, et ça j'en sais quelque chose, parce que Richter m'a raconté ces épisodes extraordinairement pénibles. Il s'agissait qu'on ne pouvait pas aller dîner sans votre ombre.
Ouais, c'est
terrible. Voilà. Et puis à un moment, ça s'est amélioré, parce que Gennady me raconte dans quelles circonstances, lorsque Andropov s'est rendu compte que les deniers de l'État étaient dépensés vraiment pour pas grand-chose, puisque les gens continuaient à fuir. Bon, l'idée, c'était d'empêcher mais les grandes personnalités, les solistes, ne fuyaient pas. Et donc, on avait peur pour les orchestres. On a toujours dit, c'est qu'un quatuor à cordes. Qu'est-ce que c'est qu'un quatuor à cordes soviétique? C'est un orchestre symphonique de retour au pays.
Voilà.
Donc, c'était quelque chose qui était très surveillé. Mais il y avait aussi quelque chose que je raconte pas dans mon livre, qui était que chacun de ces grands personnages, au moment où il rentrait au bercail, était obligé de faire un rapport sur le pays qu'il venait de visiter. Ce qui était très très pénible, parce qu'il n'était pas question de faire un rapport laudatif. Enfin,
oui, on ne peut pas dire que c'était mieux qu'à la maison.
Surtout pas. Il fallait révéler tous les défauts. Et alors Gennady, lui, il m'a raconté ça de nombreuses fois, il s'est débrouillé très bien, il revenait de Londres, et il mettait dans son rapport ce qu'il voyait de la vie musicale en Union soviétique. Et puis il disait, voilà ce qui se passe à Londres. Voilà. Donc il était tout à fait tranquille et ça lui permettait aussi d'analyser de plus près la réalité soviétique.
Le final allegretto de la 9e symphonie de Chostakovitch, l'orchestre symphonique du ministère de la Culture du RSS, dirigé par Gennady Rozhestvensky. Bruno Mont-Saint-Jean, vous écrivez en ouverture de votre livre que une des spécificités du tempérament russe est de savoir faire naître du comique dans le drame. C'est vraiment ce qu'on a dans cette musique, évidemment. Et que Rozhestvensky était incontourné, ce que l'on découvre page après page dans votre livre d'entretien.
C'est vrai que la 9e symphonie de Chostakovitch, c'est la seule qui soit un peu drôle. Enfin, il y a des passages extraordinaires aussi dans la 5e.
Mais là, c'est très, très grinçant.
Là, c'est très grinçant. Très acide, à la fois grinçant et il y a de l'humour.
Oui, hein, bien sûr.
Plus exactement, plus que de l'humour, c'est des sarcasmes. C'est quelque chose qui est tout à fait, quelque chose qui est très, très russe, cette idée du sarcasme. Alors, avec Chostakovitch, je m'aventurais sur un terrain relativement dangereux.
Allez-y.
Parce que Gennady et Chostakovitch ont eu effectivement une vraie collaboration extraordinairement proche. D'abord par l'adoration qu'il avait pour Chostakovitch, et Chostakovitch l'admirait de manière incroyable. Je veux dire, il était tellement proche et surtout avec l'aventure du nez,
la grande tournée que lui avait retrouvée.
Mais je m'aventurais sur un terrain dangereux parce que moi-même, je ne peux pas voir Chostakovitch comme un des plus grands compositeurs du siècle. Voilà. Alors que pour un russe soviétique, ça ne fait pas le moins doute. Quand on met en parallèle Bartok, Stravinsky, Prokofiev ou Schoenberg ou des comme ça, on ne peut pas considérer Chostakovitch. Je ne peux pas en tout cas le considérer comme un des plus grands compositeurs du siècle. Pour eux, c'était du siècle, mais de l'histoire. Et il adhère à l'opinion de Koussevitzky, qui a enregistré la 7e symphonie, et qui s'était fait déchirer par Chostakovitch, qu'il a réenregistré, parce que Chostakovitch avait trouvé son interprétation tout à fait mauvaise. Et Koussevitzky a réenregistré cette symphonie, je crois que c'est la 8e plutôt, et a dit, depuis Beethoven, c'est le plus grand compositeur.
Très bien, merci beaucoup Bruno Mont-Saint-Jean. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître chez Fayard, Les bémols de Staline, conversation avec Gennady Rozhestvensky. J'y suis arrivé à peu près. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Claire Levasseur, Annie Comier attachée de production. La semaine prochaine, nous resterons en Russie puisque nous serons en compagnie d'André Lichke et de Rachmaninov. D'ici là, excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.